Je vous invite à rouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul aux Philippiens que nous avions commencé avec Philippe et que nous continuons encore aujourd'hui. Nous lirons ce matin les versets 27 à 30. Mais d'abord, je fais un résumé un peu des deux épisodes précédents. Pour être assez bref, je poserai que Paul, l'apôtre, à deux reprises, nous a désarçonné un peu dans sa lecture des événements. Car il est en prison alors qu'il écrit cette lettre, conduit par une garde romaine vers la ville de Rome, où il y aura son procès, puisqu'il y en a appelé à l'empereur lorsqu'il avait été arrêté. Certains pourraient dire facilement que les choses tournent mal pour l'apôtre, mais même tournent mal pour l'Église, pour le règne du Christ. Et à cela, on pourrait dire que s'ajoute le fait que lorsque Paul a été emprisonné, il y a eu un bel élan de vocation à reprendre le flambeau, mais parmi cet élan de vocation, une bonne poignée d'ambitieux se sont mis à prêcher le vrai évangile, mais pour des mauvaises raisons, voire même pour rendre jaloux Paul dans son incarcération. L'attitude de Paul face à ces deux manifestations du mal et du péché à l'œuvre contre lui, particulièrement, mais aussi contre l'Église, est étonnante. Premièrement, nous voyons que pour lui, son incarcération est une occasion à apporter l'évangile. Philippe nous avait montré comment ce groupe de la garde prétorienne était relativement intouchable. Et pour Paul, qu'importe où son voyage l'amène, tant que Christ est annoncé tout le long du chemin autant que possible. Et il appelle les chrétiens de la ville de Philippe à se réjouir avec lui en cela. Il les encourage à ne pas se sentir mal ou honteux, mais plutôt fiers de ce frère qui persévère dans la foi malgré les épreuves. Deuxièmement, nous observons que ces prédicateurs malhonnêtes, qui toutefois, je le rappelle, prêchent un vrai évangile, pour lui participent au royaume, et c'est tant mieux du moment que Christ est prêché. Alors certes, ils ne glorifient pas le Seigneur, ni ne lui ressemblent dans leurs attitudes et leurs ambitions. Mais Paul a cette optique de faire feu de tout bois, et il se pose comme un vrai modèle, lui, d'ambition pour le Seigneur, tout en contrastant avec ses enseignants intéressés. Mais pourtant, on est assez étonné que sa condamnation à leur encontre ne soit pas plus ferme. Bref, la passion de Paul pour le royaume le conduit à considérer les situations et les enjeux d'une autre façon que la plupart des gens. Il veut inspirer les Philippiens chrétiens à vivre comme lui en changeant leurs priorités et leur façon de lire les choses. Mais pour cela, nous l'avons rappelé dans les prédications il y a quelques semaines, ils ont besoin d'être fortifiés dans l'amour. Oui, dans l'amour. Je vous relis les versets 9 et 10. Voici ce que je demande à Dieu dans ma prière. C'est que votre amour grandisse de plus en plus avec une pleine connaissance et une compréhension parfaite pour que vous soyez capable de discerner ce qui est important. Pour que quelqu'un soit capable de discerner, de juger, de faire le tri entre ce qui compte le plus et ce qui peut être secondaire, entre ce qui est urgent, premier, ou ce qui peut attendre. Qu'est-ce que vous auriez mis, vous? De l'instruction? Des diplômes? De l'expérience de terrain? La sagesse? Un grand QI? Ou de l'amour? Honnêtement, je ne serais pas allé sur l'amour en premier, moi. Paul dit qu'il faut grandir dans l'amour, ou plutôt que notre amour grandisse. Amour de qui? Pourquoi? Pour qui? Bonne question, hein? Eh bien, on n'y répondra pas aujourd'hui. Dans une autre prédique. Nous attendrons la prochaine. Mais déjà, je vous invite à obéir à Paul et à chercher dans votre tête à associer discernement, trouver ce qui est vraiment important et l'amour. Une association que je n'aurais pas faite si la Bible ne m'y avait pas poussé. Associer que si je veux être organisé dans mes priorités, choisir ce qui est réellement important, j'ai besoin de grandir dans l'amour. Peut-être de Dieu, peut-être des autres, peut-être de la parole, on verra. Mais ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas ma piété, ce n'est pas mon engagement, même si je vous encourage à croître dans tout ça. Mais c'est l'amour. Voilà, on arrive au chapitre d'aujourd'hui, ah, au passage d'aujourd'hui. Donc nous lisons ensemble. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de la bonne nouvelle du Christ. Ainsi, que j'aille vous voir ou que je reste absent, j'apprendrai que vous demeurez bien unis dans un même esprit et que vous combattez ensemble d'un même cœur. Pour la foi en la bonne nouvelle. Ne vous laissez effrayer en rien par vos adversaires. Ce serait pour eux le signe qu'ils vont à leur perte et que vous, vous êtes sur la voie du salut. Et cela grâce à Dieu. Car vous avez reçu la grâce de servir le Seigneur, le Christ, pardon, non seulement en mettant votre foi en lui, mais encore en souffrant pour lui. Maintenant, vous participez au même combat que vous m'avez vu livrer autrefois et que je livre encore, comme vous le savez. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Pas très simple comme passage. On va essayer de simplifier. Donc, Paul termine le passage précédent. On n'a pas lu là, mais au verset 26, il dit qu'il aimerait beaucoup, il aurait beaucoup de joie à revoir ses frères et sœurs de l'église de Philippe. Et qu'il est convaincu que parce que les Philippiens aiment beaucoup Paul, eh ben, les épreuves de Paul, au lieu de les rendre peut-être timides, tièdes, de les éloigner, les rendraient fiers et motivés pour le Seigneur. Imaginez, on fait un bond dans le passé, on se retrouve dans cette église dans les années 40, et vous avez un pasteur qui dénonce les rafles des Juifs. Et ce pasteur, on imagine, finit emprisonné loin de vous. D'accord? Mais il vous écrit que, ben voilà. Si c'était à refaire, il le referait. Parce que ce qu'il a dit, il est convaincu, c'était vrai, c'était juste. Et vous, vous partagez sa foi dans les Écritures et vous lisez cette lettre. Vous aurez honte ou vous seriez fier? Vous seriez fier de ses chaînes à lui pour vous. D'accord? Et dans sa grâce, Dieu le maintient en vie jusqu'à la libération et il revient parmi vous. Vous seriez juste ravi de le revoir et juste encore plus fier de son histoire et de comment est-ce qu'il a su vivre sa foi jusqu'au bout, même en s'exposant à la souffrance. Bien, c'est ce que Paul dit aux Philippiens. Je sais que si je reviens parmi vous, ça sera ce genre de fête. D'accord? C'est pour ça qu'il écrit, bah, écoutez, marchez en bon citoyen des cieux, en bon chrétien dans le sens Vivez toutes les valeurs du royaume au quotidien comme ça. Que je revienne ou que je ne revienne pas, je saurai que vous êtes attaché au Seigneur. Et pour lui, marcher en bon citoyen du royaume, ça veut dire être uni dans le même esprit, luttant d'une seule âme, combattant d'un seul cœur, pour la foi de l'Évangile. D'accord ? Il y a cette unité, même esprit, même âme, même esprit, même cœur, autour de l'Évangile. Et deuxième chose, en fait, sans que rien qui vient des adversaires ne nous effraie, et quand on arrive à trouver cette confiance en Dieu au point où on est en paix, même face au coup de l'adversaire, ça prouve deux choses. Un, pour eux, ça va les faire douter, les faire vaciller sur leurs convictions qu'ils se battent pour la bonne cause. Et nous, ça va nous enraciner dans notre conviction du salut. Et Paul dit que cette confiance-là, dans les épreuves, c'est un don de Dieu. C'est pas naturel. C'est un don de Dieu. Il dit quelque part que comme la confiance que vous avez en Dieu, c'est un don de Dieu, et bien, ça aussi. Donc, on retrouve ces deux idées que Paul avait déjà présentées. Être unis dans le même esprit, luttant telle une seule âme, d'un seul cœur pour la foi et l'Évangile, exprime quoi ? Ça exprime qu'on sait discerner ce qui est important, ce qui vaut la peine, ce qui doit passer en premier et ce qui doit faire taire nos querelles personnelles, nos ambitions. Deux, le courage face aux adversaires vient également de l'assurance du salut et de la résurrection de la vie éternelle. Souvenez-vous que Paul disait en effet, selon ce que j'attends et ce que j'espère vivement, je n'aurai aucune raison d'être honteux. Au contraire, maintenant, comme toujours, avec une pleine assurance de la grandeur du Christ sera manifestée en moi, que je vive ou que je meure. Voilà. Il a cette assurance que ce qu'il espère, le retour de Jésus, l'établissement du royaume et la résurrection des fidèles, il en est tellement sûr que ce que peuvent lui faire les adversaires, quelque part, il le relativise. Ça perd de son importance. Et l'assurance face aux adversaires, pour Paul, ce n'est pas un sourire narquois, comme dans les films, qui laisserait entendre que « j'en sais plus que toi ». Et tu verras, au final, c'est toi qui vas te faire avoir. Non, non, Paul a fini décapité. Son assurance en Christ n'a pas failli, mais la lame du bourreau non plus. Lorsque Paul dit qu'il a de l'assurance de n'avoir aucune raison d'être honteux, il parle de la vie éternelle. Il sait quelque part, d'une manière qui me dépasse, que ce qu'il sème avec ses larmes, avec son sang, par sa souffrance, produira du fruit dans les 1000 ans, 2000 ans à venir, parce que ce qu'il vit, il le fait pour le Christ. Et nous, on est là, 2000 ans plus tard, et on lit les écrits de Paul, et on s'en nourrit. Donc, quelque part, cette confiance de l'apôtre était justifiée. Et ce qu'il faisait dépassait de loin en importance les actes ou les choix tactiques de ses adversaires. À court terme, si on se concentre sur la situation de Paul en prison, on se dit « il a perdu ». Mais à long terme, c'est l'inverse. Donc, je résume. Paul encourage les Philippiens à être des citoyens des cieux modèles, discernant ce qui est vraiment important, laissant derrière les querelles pour être dans l'unité du corps du Christ. Une seule âme, un seul esprit, pour une même foi en l'Évangile. Et ça fait un socle des fondations fermes pour leur Église. Et comme ça, ils ont de l'assurance, une telle assurance que ceux qui sont opposés à l'Église, leurs adversaires sont désarçonnés. Tandis que les croyants sont fortifiés dans leur conviction pour le Seigneur. Ce faisant, Paul les appelle à devenir des véritables imitateurs de son propre parcours à lui, pour vivre le royaume de Jésus. Et c'est ce que confirment les versets suivants. Car vous avez reçu la grâce de servir le Christ, non seulement en mettant votre foi en lui, mais en souffrant pour lui. C'est bizarre ce verset, il dit quoi ? Maintenant il dit que les Philippiens ont reçu gratuitement la foi en Jésus, ok. Et aussi gratuitement, dans le même élan, ils ont reçu la possibilité de souffrir pour lui. Et qu'en réalisant ça, si les Philippiens réalisent ça, ben, ils vont comprendre pleinement pourquoi ben, Paul il était dans le combat qu'il menait lorsque ils se sont rencontrés. Et puis pourquoi là encore aujourd'hui, il est dans les chaînes pour le Seigneur. Bref, Paul, le prisonnier, écrit aux Philippiens en disant que malgré les apparences, eux et lui sont dans le même bateau et que ce n'est pas lui qui a le monopole de souffrir pour Christ, que tout le monde y est appelé gratuitement. Bon. Souffrir pour le Seigneur. Et puis, c'est quoi ce gratuitement ? Par grâce. Vous avez reçu la grâce de croire en Jésus. Bon, ça, on comprend, ok ? Ah, oh, Seigneur, je... Vous avez reçu la grâce de souffrir pour lui. Ah. Je vous rassure, c'est gratuit. Mais tant mieux. Je veux dire, quitte à souffrir pour le Seigneur, en plus, il faut que ce soit de ma poche. Non, c'est gratuit. C'est bizarre. Le grec exprime un peu que tout comme la foi que nous avons en Jésus, elle n'a pas de mérite, elle n'est pas quelque chose qui nous a été donné avec un intérêt, d'accord ? Si je te fais un cadeau pour que tu me renvoies l'ascenseur, c'est un cadeau avec un intérêt, eh bien il est dit que cette foi qui nous a été donnée, elle est désintéressée aussi, elle est pour nous, pour nous sauver, d'accord ? C'est pas on est tous sauvés par grâce, mais avec moi le Seigneur il a fait une bonne affaire parce que je suis un investissement rentable. Hein ? Non. Quand on est sauvé par grâce, on est sauvé par grâce, on n'est pas sauvé pour être rentable. Sinon, c'est pas du salut, c'est de l'investissement. Ça va ? Eh bien, c'est cette même don désintéressé qui est employé pour parler de cet appel à souffrir pour le Christ. J'avoue, je ne comprends pas trop. Mais ce qui se dessine dans mon esprit, c'est que lorsqu'on devient un enfant de Dieu, il y a comme un chemin qui nous est ouvert de participer aux souffrances du Christ. C'est assez mystérieux pour moi. Et c'est comme si ce chemin n'était pas un chemin obligatoire, mais un chemin qui nous est toujours proposé pour grandir, pour aller plus loin, pour entrer peut-être autrement dans notre amour pour lui. Une invitation ouverte, mais non contrainte. Une espèce de liberté à souffrir pour le Christ. Et donc, si c'est une liberté, c'est ou non. Mais plus en amont, pourquoi souffrir pour le Christ ? J'ai pris le temps d'y réfléchir et il m'apparaît une image un peu peut-être simpliste, mais vous allez voir, je trouve ça assez percutant. Lorsqu'on voit comment le diable ou les puissants de ce monde parviennent à capter, pour ne pas dire capturer, l'obéissance des gens. On voit globalement deux stratégies, d'accord ? Faire peur
avec quoi?
Avec la mort, avec la souffrance, avec le rejet, avec l'abandon, avec le manque, d'accord? Si vous êtes hors système, si vous marchez trop à contre-courant, d'accord? Et puis en brandissant des icônes, des idoles, des personnages influents qui, eux, vivent cela. Puis une autre stratégie, c'est le plaisir éphémère, immédiat, passager, instantané, la consommation, au sens très large du terme. Pas toujours, mais le plus souvent un peu dévoyé, c'est-à-dire vécu un petit peu en dehors du cadre normal. Et c'est pour éviter la souffrance et profiter de l'écume des choses que les tyrans du monde, quelque part, et le diable, nous attirent dans leur domination. Okay ? Donc, l'apôtre du diable sera quelqu'un qui va nous pousser à tout prix à éviter la souffrance et à profiter de l'écume des choses. Du coup, l'apôtre du royaume, qu'est-ce qu'il va faire? Jésus nous promet de souffrir pour son nom. Disons que le fait que vous soyez des disciples de Jésus, ça va amener que vous soyez rejetés, méprisés, confrontés, incompris dans le monde. Et Jésus vous le promet. En plus, il promet que vous participerez à ce qu'on appelle les souffrances classiques du monde. D'accord ? Il y a celles qui sont réservées aux chrétiens, ça c'est bonus, c'est extra, c'est pour vous. Et puis, il y a le fait que vous soyez mortel dans un monde déchu. Et là, vous participez avec tous les autres. On l'a vécu dans cette église, on a accompagné des deuils, on a accompagné des cancers. Nous connaissons des familles qui ont été brisées, nous connaissons des personnes qui sont réfugiées, et toutes ces personnes sont là à l'église, n'échappent pas à la souffrance. Et Jésus nous promet non pas de profiter des plaisirs éphémères et de l'écume des choses, mais nous promet qu'en lui, nous découvrons une joie profonde et sourde. Sourde, ça veut dire c'est comme des sources profondes. Ce n'est pas quelque chose de pétillant et de frais comme un verre de coca, c'est quelque chose de plus diffus, de plus... Il faut aller le chercher, il faut apprendre à l'entendre, il faut le sentir. Une joie profonde liée entre une harmonie, entre notre foi, notre vie, sa volonté. Une joie, rattachée à une espérance éternelle, prochaine, promise. Une joie, qui se trouve dans une certaine forme de discipline, d'abandon à soi-même, plus mature. Et n'est-il pas évident que l'apôtre de ce monde sera celui qui échappe à la souffrance, qui a les dents blanches, qui a le portefeuille bien bombé, que l'apôtre du Christ, lui, n'échappe pas à la souffrance. Il la rencontre quand elle lui permet de témoigner de Jésus. Son corps est vulnérable, pas invincible, pas encore. Et son portefeuille va plutôt servir à bénir tout ce qu'il peut, quand il peut. Je ne sais pas si vous comprenez que si on est appelé à être des témoins de Jésus dans ce monde, en fait, on ne peut pas construire notre vie dans une fuite perpétuelle de la souffrance. Pas à n'importe quel prix. Avoir de la sagesse, avoir de la prévoyance, amen. Fuir à n'importe quel prix, ce n'est pas possible parce que ce n'est pas un monde qui est conçu pour ça. Enfin, le monde déchu dans lequel nous sommes. Maintenant, ce n'est pas une prédication facile pour moi, hein, parce que je suis un grand expert d'éviter la souffrance. Comment pourrions-nous apprendre à souffrir pour le Christ ? pense que la première chose que l'on peut apprendre pour le Seigneur, et j'en dirai peut-être pas plus ce matin, la première forme de souffrance que l'on peut apprendre pour le Seigneur, c'est la frustration. Choisir de ne pas aller ici, mais de plutôt aller là. Choisir de ne pas prendre ceci, mais plutôt de prendre ça. Choisir de ne pas participer à ceci, pour plutôt manifester cela. La simple frustration que nous nous imposons à nous-mêmes, en conscience, en nous disant, eh bien, je fais ça, Seigneur, parce que je veux t'aimer. Je fais ça, Seigneur, parce que je veux te préférer. Je fais ça, Seigneur, parce que je veux te choisir. Et je ne parle pas d'une conformité sociale. Ah oui, les chrétiens font ceci, donc moi je vais faire cela. Ah oui, ça ne se fait pas quand on est chrétien d'eux, alors je vais faire cela. Je parle, moi, avec le Seigneur, dans cette vie intime de communion spirituelle que vous avez tous, cette voix qu'a évoquée Bruno, ici, je peux apprendre à faire des choix pour lui. Personne n'a à le savoir. Je n'ai pas à les proclamer sur les toits, je n'ai pas à m'en vanter, même si avoir de la redevabilité, m'engager face à quelqu'un, ça peut m'aider aussi à tenir mes paroles. Mais d'abord d'apprendre que voilà, Seigneur, je fais ça pour toi. Et je pense que c'est un premier pas pour grandir dans l'amour de Jésus et un premier pas pour apprendre à discerner ce qui est vraiment important. Et pour le reste de la souffrance, pour être tout à fait franc, je ne peux pas vraiment vous l'enseigner parce que je crois que je ne le connais pas encore.